soir et bienvenue à tous pour les trois quarts d'heure d'analyse et des commentaires ainsi que des débats autour de l'actualité de la semaine que vous propose la fréquence de la T Radio Kati. Au sommaire, une nouvelle étape a été franchie dans la mise en place des nouvelles provinces. Après le démembrement de la province orientale en 4 et de la province de l'Équateur en 5 nouvelles provinces, la semaine dernière bien sûr, c'est le tour de la province du Kati Oriental d'être démembrée cette semaine ainsi que de la province de Katanga. Nous en parlons dans une dizaine de minutes. Et puis nous parlerons de la régie des voies aériennes qui a suspendu les vols internationaux de la compagnie Ethiopian Airlines à partir de Goma au Nord Kivu au lendemain de son vol inaugural. La RVA justifie cette décision entre autres par la poursuite des travaux en cours à l'aéroport qui ne permettent pas à cet appareil d'effectuer des vols. Décision que déplore bien sûr la population du Nord Kivu. Et pour en parler, je reçois dans ce studio Joachim Diana, éditeur responsable du journal La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Joachim, bonsoir.
Bonsoir mon frère.
John Ngombwa, directeur des informations à Antenne A, une télévision privée qui émet ici à Kinshasa. John, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de Radio Kapi.
Et Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi dans la province du Congo central. Il est en visite à Kinshasa et nous fait l'honneur de venir dans ce studio. Charles, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Kapi et surtout particulièrement à tous les lecteurs du journal de Gouvernance Plus disséminés à travers la province et à Kinshasa.
Merci. Nous sommes vendredi 17 juillet 2015. Bienvenue à tous dans votre magazine. Et pour commencer, nous allons voir comment la presse écrite a analysé l'actualité de la semaine avec vous, Guy Maté. Bonsoir.
Bonsoir. L'actualité congolaise est notamment dominée par les découpages territoriaux déjà effectifs dans plusieurs provinces congolaises et aussi par la suspension des vols internationaux d'Ethiopian Airlines. À Sayune, le palmarès annonce découpage territorial et les palais de la nation prévient contre tout dérapage. Selon le journal, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Evariste Boshab, conscient du danger qui guette le processus de découpage territorial, notamment la tentation de l'exclusion et des conflits intercommunautaires, a prévenu que quiconque succomberait à cette tentation se retrouvera sous le coup de la loi. Forum des As annonce pour sa part nouvelle province ruée à Kinshasa vers le gouvernorat. Citant des sources généralement bien informées, le journal affirme que des tractations sont en cours dans la capitale congolaise avec au centre des noms des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs, même si, rappelle le quotidien, au terme de la constitution, les tickets des candidats seront élus par les futurs députés provinciaux attendus pour les nouvelles provinces. L'hebdomadaire La République note qu'avec la nomination des directeurs provinciaux de la DGM et les commissaires provinciaux de la PNC, la sécurité des nouvelles provinces assurée. Par ailleurs, les tri hebdomadaires Congo Nouveau souligne qu'avec les découpages territoriaux, des provinces à 3 ou 4 députés provinciaux sont attendus en RDC. Au sujet de la suspension des vols internationaux d'Ethiopian Airlines, Radio Kapi.net rapporte que des centaines de personnes, dont les aviateurs de la ville, ont organisé une marche pacifique mercredi 15 juillet à Goma, au Nord Kivu, pour soutenir la compagnie d'aviation Ethiopian Airlines, dont les vols internationaux ont été suspendus depuis vendredi dernier. La régie des voies aériennes, RVA, qui avait pris cette décision, a annoncé la reprise des vols de cette entreprise dans les tout prochains jours, précise la source. Entre-temps, le gouverneur de la province, Julien Paluku, appelle la population au calme. Et dans une pétition remise au commandant de la RVA, les habitants de la ville de Goma demandent l'annulation de la lettre de cette régie suspendant les vols internationaux d'Ethiopian Airlines. Pour eux, cette lettre de la RVA exprime une volonté manifeste de bloquer le développement de la RDC et de créer des opportunités pour les pays voisins. Sous un autre chapitre, le quotidien du groupe L'Avenir signe à manchette examen d'État 2015, la liste des lauréats est là. C'est hier qu'a débuté la publication des résultats de cette édition. La ville-province de Kinshasa enregistre 63% de réussite. Aussi, Forum des As titre-t-il « Examen d'État 2015, la publication électronique des résultats fait bouger Kinshasa, qui est en ébullition depuis hier ». Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté. Et parmi les sujets qui ont fait l'actualité, vous l'avez dit Guy Maté, nous avons la publication des résultats de l'examen d'État pour Kinshasa avec un taux de réussite de 63%, une légère baisse quand on sait que ce taux était de 64% l'année dernière selon le ministre Makair Mwangu-Famba. Alors Joachim, Diana, comment avez-vous accueilli la publication de ces résultats?
Bon, en fait, c'est une bonne chose que les résultats sortent avant la rentrée académique. Cela permet aux nouveaux diplômés de pouvoir s'inscrire à l'université. Le taux de réussite de 62%, et c'est aussi une bonne chose. Je crois qu'il y a 2-3 ans après, c'était une catastrophe. Et tout comme des années avant, c'était la complaisance où il y avait presque des 100%. Et ce que nous demandons à l'enseignement supérieur, c'est de continuer à faire des efforts. Autant le gouvernement fait des efforts pour construire des écoles, autant on doit faire des efforts pour que ces écoles ne soient pas des tombeaux blanchis, que le niveau de l'enseignement soit effectivement élevé, qu'on ait des diplômés qui soient réellement des diplômés et qui puissent être reconnus. Moi, je vous dis que on doit faire effort pour que le niveau de l'enseignement soit élevé, qu'on fasse effort pour que ce diplôme d'État qu'on délivre soit reconnu mondialement, parce que nous sommes tous membres de l'UNESCO.
D'accord. Alors, John Gombo, est-ce que vous partagez le même avis que Diana?
Oui, totalement. Je voudrais en plus ajouter le fait que il faudrait aussi qu'on s'occupe des conditions sociales des enseignants, parce que c'est eux qui transmettent les savoirs. On ne peut pas comprendre que les détenteurs du savoir sont dans des conditions
précaires.
Alors qu'on attend de la qualité, c'est incompatible.
Alors, Charles Kipingani, quelle est votre lecture sur la publication de l'examen d'État?
Merci pour la question. Je vis l'ambiance que cela a amené dans les chefs de lauréats. Je vis même à côté de la Gombe, au rond-point Victoire, les milliers, pratiquement les plus ambiants de la ville de Kinshasa. Mais ce que j'ai pu relever, c'est que chez nous, par exemple, à Matadi, le maire de la ville avait donné des instructions fermes aux lauréats de ne pas faire d'étapage à la publication des résultats. Mais dommage, à moins que ça ait été une autre décision ici à Kinshasa. Mais ce qui est malheureux, c'est que les lauréats, qu'on appelle des intellectuels, des futurs universitaires ou futurs employés, se donnent à des actes qui n'honorent pas l'air.
Leur statut
actuel. Donc, peut-être il y a un manque de respect des instructions leur données par les autorités. Donc, tout ce que le Premier ministre, ici à Kinshasa, on avait vu, le Premier ministre était passé dans différents centres pour réconforter les élèves à mieux faire. Mais s'il faut mieux faire, je pense que quand on a son diplôme d'État, on doit bien se comporter. Alors, on va même se poser la question, où est allé et où est passé les instructions ou les enseignements qu'ils ont réussi, parce que quand on a appris, on est censé être un modèle dans la société.
Merci. Alors, l'autre actualité de la semaine, c'est le discours de l'ambassadeur de France aux Congolais à l'occasion de la 226e année de la Révolution française, intervenue le 14 juillet 1789. Luc Allade a fait ses adieux aux Congolais entre-temps et s'est adressé aux politiciens, je cite, « L'alternance politique, quelle qu'elle soit, la forme qu'elle prendra, pourvu qu'elle soit démocratique et ou sera une bonne chose. Il faut savoir quitter le pouvoir, comme il faut savoir quitter ses fonctions, aussi intéressantes et prestigieuses soient-elles. » Fin de citation. Alors Joachim, je reviens vers vous. Quelle lecture vous faites de cette affirmation du diplomate français?
Bon, en fait, ce qui m'étonne, c'est que le diplomate croit que c'est le message qu'il peut donner aux Congolais en ce moment solennel de l'indépendance de la fête nationale de son pays, et en ce moment où il doit dire adieu à la République démocratique du Congo. Dire que quitter les fonctions, mais je pense que c'est la chose qui va de soi. On les quitte soit volontairement, soit par décès, soit par
révocation. Précis du Congo.
Mais justement, je voulais en arriver. Lui, quel est ce contexte du Congo aujourd'hui? Si son discours est contextualisé, quel est ce contexte aujourd'hui? C'est là où je dis qu'il est totalement à côté. Il est en train de prendre la situation pour croire que voilà, ces animaux sauvages, si un sanglier dans telle forêt se comporte comme ça, dans telle autre forêt, le même sanglier aura le même comportement, parce que ce sont des gens qui ont des comportements programmés. Et c'est pourquoi je n'accepte pas, c'est raciste.
Alors, John, est-ce que vous trouvez dans cette affirmation une forme de pression qu'exerce la diplomatie étrangère vis-à-vis du Congo?
Bien entendu, je crois qu'il s'agit ni plus ni moins que de cela. Les diplomates français ont donc profiter d'un contexte particulier qui est la fin aussi de son mandat pour pouvoir cette fois-là s'exprimer dans un langage qui n'était pas diplomatique. Bon, ben voilà.
Et vous êtes d'accord avec Joachim ?
En ce qui concerne...
En ce qui concerne l'affirmation, l'analyse de, de cette phrase-là.
Bon, moi je pense que nous sommes aujourd'hui dans un grand village où il est illusoire de croire que nous pouvons vivre sans que les tiers puissent avoir leur avis sur nous. Donc l'ambassadeur de la France en RDC a donné son point de vue et bon, on les prend, bon, c'est là. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que ce qu'il a dit va influencer la situation à l'interne? Bon, ça c'est une autre paire de manches.
Alors Charles, quelle nouveauté vous trouvez finalement dans ce discours du diplomate français? Parce qu'on rappelle que ce n'est pas la première fois qu'un diplomate puisse faire ces genres de déclarations. On se souvient de l'ambassadeur suédois en RDC avant de faire ses adieux. Il a aussi eu des termes, comme l'a dit Joachim, pas très diplomatique pour s'adresser aux politiciens congolais.
Merci. Je pense que la question qu'il faut commencer par se poser est celle de savoir qui leur donne le pouvoir d'avoir cette liberté de dire des choses dans un État qui semblerait être souverain. Nous avons beaucoup de fois critiqué les propos de membres de la communauté internationale par rapport à la vie, je dirais privée même de la RDC. Mais est-ce que nous avons jusque-là une vie privée par rapport à ce que nous vivons comme situation politique? Nous avons toujours dit que la main qui donne est la main qui commande. Si l'ambassadeur doit le dire, il le dit au nom de qui?
De la France.
Sincèrement, il le dit au nom de la France. Et quelle est l'influence de la France en RDC? La réponse est là. Donc, si un ambassadeur dit des choses au nom de son pays sans avoir été interpellé, parce que quand il a dit ça, on n'a pas entendu une quelconque interpellation de la France, que non, vous avez, il n'a pas fallu dire ça, c'est que cela a intéressé son gouvernement qui l'a envoyé ici. C'est une bouche de la France qu'on a entendu par via l'ambassadeur. Donc, c'est nous qui devons maintenant réfléchir. Comment les gens doivent se permettre de dire des choses dans un pays qui est souverain? Et quand nous disons que lorsqu'il faut même peindre le mur des bâtiments publics, il faut que l'Union européenne, il faut que le Royaume de Belgique, il faut que la France intervienne dans tel ou tel autre dossier, il faut que nous acceptions qu'ils disent, qu'ils prennent de tels propos, qu'ils prennent de telles positions en face d'un pays qui est pourtant souverain.
Et donc vous acceptez aussi l'alternance, parce qu'en d'autres termes c'est l'alternance
qu'il a dit. Si nous avons dit que, l'autre fois j'ai suivi Alain Foucault, qui est un journaliste français, qui est venu ici, il est intervenu dans une émission où je le suivais, on lui pose la question par rapport à l'ingérence de la communauté internationale dans les États africains. Il a dit: la communauté internationale qui met de moyens pour que nous organisions, je suis tout à l'heure là, on attendait encore le moyen qui doit provenir de la communauté internationale pour que nous puissions organiser des élections. Et dès lors que nous tendons encore la main vers cette communauté internationale, elle a toujours le pouvoir de nous gérer d'une manière indirecte. Donc il faut que nous soyons réellement indépendants, ou sinon elle nous pousse à respecter nos constitutions. Il n'y a pas autre chose à dire là-bas. C'est qu'elle nous aide à respecter, comme même nous ne sommes pas capables de le faire, elle nous aide à respecter nos propres constitutions.
Merci. Alors c'est par ici que nous finissons la partie des commentaires et nous entrons dans le premier thème de notre soirée d'aujourd'hui. C'est justement cette nouvelle étape qui a été franchie dans la mise en place des nouvelles provinces. Après le démembrement de la province orientale en 4 et de la province de l'Équateur en 5 nouvelles provinces, la semaine dernière bien sûr, c'est le tour du Kasaï oriental à être démembré cette semaine. Et pour y arriver, la commission de démembrement a présenté mercredi le rapport de travail réalisé pendant une dizaine de jours. C'était au cours d'une plénière de l'organe délibérant convoqué en session extraordinaire. Le reportage de Chris Moukant est rendu ici par Thérèse Cancou.
L'actif et le passif du Kasaï oriental, il y a quelques heures, ont été équitablement répartis entre les trois actuelles provinces, notamment les Sankuru, la Lomami et les Kasaï oriental. Cela s'est fait sur base des critères de la capacité contributive et de la démographie de chaque nouvelle entité. Toutefois, pour être plus équitable, on a pris en compte les non-nantis. C'est ce qu'explique Jean-Baptiste Menawamena, porte-parole de la commission des créations de nouvelles provinces issues de l'ancien Kasaï oriental. Les bâtiments abritant les gouvernorats de province, l'actuelle assemblée provinciale, restent naturellement en Mbujimayi parce que l'on ne répartit pas les biens immobiliers. Leur valeur a été estimée et des compensations sont prévues en faveur de deux autres nouvelles provinces. Quant au matériel roulant, dès ce jeudi, tous les véhicules officiels de la province seront regroupés dans la cour du cabinet du gouverneur. Et la répartition va se faire entre les trois nouvelles provinces.
Et entre-temps, le Katanga a aussi éclaté en quatre. L'Assemblée provinciale en a pris acte jeudi à l'issue du rapport déposé par la commission chargée de démembrement de cette province. Pour Kiungwa Kumwanza, président de l'Assemblée provinciale, le démembrement étant constitutionnel, il ne pouvait que s'y plier. À cette occasion, il a plaidé aussi pour le respect de la Constitution par tous. Ainsi, il a demandé aux députés provinciaux appelés à rejoindre les nouvelles provinces de tout faire pour les rendre prospères. Les détails avec vous, Neuï Kabena.
Dans une brève présentation du rapport, le président chargé du démembrement est resté peu bavard sur le chapitre qui concerne les actifs et les passifs de la province, expliquant que tout était contenu dans le rapport de 640 pages déposé à l'Assemblée provinciale. Prenant la parole, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga a tenu à expliquer que le Katanga n'est pas une province comme les autres. Depuis l'époque coloniale, le Katanga a toujours été une province spéciale. D'où son appel à tous les Katangais, je cite, « On a découpé l'administration du Katanga, mais non la Katanganité ni le Katangé », fin de citation. Pour ce qui est des actifs de la province, Antoine Kiungu a insisté sur le respect de la Constitution.
La province a ainsi reçu globalement 6% au lieu de 40% de rétrocession. Rétrocession, c'est une infraction constitutionnelle. Donc n'ayez pas peur d'avoir de nouvelles provinces dès lors que vous allez vous battre d'abord pour récupérer ce que le pouvoir central nous doit. Nous ne voulions pas de nouvelles provinces, mais nous avons obéi à une loi qu'on ne doit pas violer.
De Lubumbashi, Noli Kabena, Radio Okapi.
A noter que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, a annoncé la semaine dernière que les élections des nouveaux gouverneurs pour les nouvelles provinces issues de la province orientale et de l'Équateur interviendra d'ici le 31 juillet courant. Vous venez de nous prendre en cours, sachez que c'est la tribune de la presse qui reçoit ce soir Joachim Diana, éditeur responsable du journal La Colombe, un quotidien qui est paru ici à Kinshasa, John Gomboa, directeur des informations à Antenne A, une télévision qui émet ici à Kinshasa, et Charles Kipingani, éditeur du journal Gouvernance Plus, un hebdomadaire qui paraît à Matadi, dans la province du Congo central. Je me tourne vers mes invités. Alors Joachim, Diana, comment vous avez accueilli cette nouvelle étape dans la mise en place des nouvelles provinces?
Bon, en fait, je suis de ceux qui n'avaient pas compris que l'on puisse s'inscrire. Et dans la Constitution, le découpage en le confondant avec la décentralisation. Et pour ce faire, je me basais sur l'exemple de Kivu, qui avait été déjà découpé en trois provinces, mais la décentralisation n'y a jamais été en règle. Donc c'est pour dire qu'on peut découper sans qu'il y ait décentralisation. Donc cela, le découpage risque d'être un trompe-l'œil, donc il faudrait qu'on trouve que le ministre de la décentralisation n'estime pas que la décentralisation est acquise après avoir découpé. Ça, donc le développement ne viendra pas du découpage, mais de la décentralisation et du travail. Alors, je vais dire maintenant à l'endroit de ceux qui se font du mauvais sang. Je sentis ce mauvais sang même dans le discours du président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Mais nous étions à San City. Lorsqu'on a inscrit le 26 provinces, c'est tout le monde qui a accepté. Et c'est tout comme si on a dit, bon, inscrivons ça, mais on ne va pas respecter. Non, il fallait agir comme le Bas-Congo.
Mais est-ce qu'il fallait le faire forcément dans cette législature?
Non, mais pourquoi pas dans cette législature? Parce qu'en fait, conformément à la Constitution dit ceci, que 3 ans après la mise en place des institutions de la Troisième République, on devrait passer à 26 provinces. Donc 3 ans, c'était en 2009. En 2009, on s'est rendu compte qu'on n'était pas en mesure de le mettre. Et alors, on a fait une loi
qu'on a appelé la loi, pour ne pas violer la constitution, on a mis en place la loi qu'on a appelé la loi de programmation.
Mais est-ce que Joachim, vous ne pensez pas que la Troisième République, c'est aussi les présidents qui peuvent venir après 2016?
Non, la Troisième République, c'était celle qui coupait avec la transition de Pimzé.
Bien évidemment.
Et qui était la Première République après celle de Mobutu, qui était la Deuxième République. C'est celle-là, la Troisième République. Elle commence en 2006 avec le gouvernement Gizeng en 2006 et avec Joseph Kabila élu démocratiquement.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça la Troisième République. Normalement, c'est en 2009 qu'on devrait mettre en place le 26 provinces. On n'a pas pu le faire pour des raisons que le président de l'ARP avait expliquées devant le Congrès. Et alors, on a mis en place une loi de programmation. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une zone de coupage qui est prévue pour cette année, pour cette législature ou pour d'autres raisons, glissement ou ceci, toutes les raisons qu'on trouve aujourd'hui pour justifier une histoire qui était dans la Constitution où il y a déjà une loi qui a été votée, une tempo non suspecte.
D'accord, on y revient. Alors John Gomba, quelle est votre analyse sur cette question?
Bon, je pense que il fallait toucher du bois, c'est arrivé. Maintenant, je voudrais vraiment me rassurer que l'objectif, plutôt l'usage qui sera fait de ces découpages, ça sera pas simplement pour pouvoir avoir davantage des postes assez redistribués, parce que ces nouvelles provinces vont poser des sérieux problèmes de viabilité et risque, si ce n'est pas bien géré, de créer l'effet contraire, hein, c'est-à-dire on a voulu rapprocher les pouvoirs au niveau de la base, on a voulu stimuler les développements. Si la mayonnaise ne tient pas, on risque d'avoir l'effet contraire. Et c'est là, si dans les chefs des gestionnaires, ceux qui vont devoir gérer les institutions provinciales, il faudrait vraiment qu'ils s'inscrivent dans une dynamique de développement de leur entité et du pays pour en faire bon usage. Sinon, nous risquons de regretter cette mesure, somme toute utile. Mais bon, qui pouvait ou n'est pas à mon sens.
En même temps, il y a beaucoup d'analystes qui estiment que c'est vraiment précipité cette mise en place des nouvelles provinces. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui et non. Oui, parce que il y a un certain nombre de préalables qui nécessitaient, entre autres les budgets, entre autres
les infrastructures,
les infrastructures, les la fonction publique au niveau de ces provinces. Donc il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui n'ont pas été prises. Mais en même temps, la loi avait déjà créé ces provinces déjà depuis plusieurs années. Mm-hmm. Donc on a tardé à mettre en application une disposition qui existait déjà depuis longtemps. Donc voilà pourquoi moi je dis oui et non en même temps.
Mais non, vous avez expliqué précisément pour le oui, parce qu'il y a eu cette précipitation, il n'y a pas les infrastructures, mais le non dans quel sens?
Le non dans le sens que la disposition existait dans la loi depuis longtemps. Mm-hmm. Donc quand on considère que c'est depuis 2009 qu'on devrait y être, on a un retard, on va dire déjà 7 ans, mm-hmm. Non 6 ans, mm-hmm. Donc on a un retard de 6 ans.
Justement, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il faut vite se précipiter?
Non, je ne pense pas, mm-hmm. Je ne pense pas. Nous avions eu le temps de le faire correctement, cela n'a pas été fait. Alors aujourd'hui, eh bien, la décision a été prise de toucher du bois, on le fait, mais maintenant il faut que ça soit bien géré, sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir l'effet contraire de ce qui est attendu.
D'accord. Alors, Charles, vous n'avez pas des problèmes. La province du Congo central a juste changé. C'était le Bas-Congo, maintenant c'est le Congo central. Mais comment vous analysez un peu ce démembrement des autres provinces?
On a récupéré les noms du Congo central. Alors, on n'a pas changé parce que c'est non. Et depuis lors, on s'est toujours appelé peuple Congo. Ça signifie que c'est pas le Congo avec ce majesté.
C'est avec le K.
Avec K.
Oui.
Et par rapport à cette question, je crois que notre objectif serait que les infrastructures devaient accompagner le démembrement.
Ça devait venir en amont ou ça devait venir
Ça devait venir en amont.
Mm-hmm.
Ce n'est pas que vous envoyez quelqu'un dans un village où il n'a pas de maison, après vous lui dites non, allez-y attendre sous la toiture du chef coutumier et on viendra construire la maison pour que tu sois installé. C'est irréaliste. Alors,
Puisque c'est irréaliste, vous pensez qu'il faut, il faut un peu sursoir cette mesure?
Sursoir, le bateau était déjà en marche, les trains étaient déjà en marche, où il faut dire que le vin tiré, il faut le boire. Mais il faut le boire comment? Avec quel verre? Avec quel gobelet? Ou avec quel calebasse? Lorsqu'on fait des choses dans la précipitation ou dans l'irréalisme, il faut qu'on arrive à ce genre de théâtre. Sincèrement, mon aîné a dit que c'est depuis 2009 qu'on devait installer ces nouvelles provinces. Cela a raté pour quelle raison? Est-ce que le gouvernement a pu donner sa raison? Non. Et aujourd'hui, bien qu'il dit, il soutient que le chef de l'État a expliqué devant le Congrès, mais je ne pense pas que cette raison ait tenu debout pendant que c'est une raison constitutionnelle. Parce que ce qui est constitutionnel doit être défendu au référendum pour que ça puisse encore trouver sa formule dans la Constitution. Et cela est resté à ce niveau-là. De 2009 au jour de 2015.
À la veille de l'élection présidentielle.
À la veille de l'élection présidentielle. On veut réaliser ce qu'on n'a pas pu faire pendant tout ce temps. Je crois que c'est être beaucoup trop irréaliste. Alors, dans ce genre de problème, maintenant il faut, allons attaquer le vrai problème. Le problème, c'est que il faut se poser la question des avantages de ce démembrement et la récupération de la situation par les politiques pour chuter par la crise que cela entraîne. Pourquoi, je l'ai dit la fois dernière, pourquoi lorsque nous voulons passer d'une étape à une autre, cela doit passer par une crise? Mais la fois dernière, quand nous avons célébré les 55e anniversaire de l'indépendance, que les uns disaient 55 ans d'âge, nous avons atteint la maturité, malheureusement. Nous avons toujours dit que le Congo vient de loin, et qu'aujourd'hui nous avons la capacité de faire les choses. Mais je crois que si nous continuons d'amener les choses de cette manière-là, dans l'impréparation, pour que cela crée des scandales et que la population soit victime de certaines histoires impropres, je crois que ce n'est pas sérieux.
D'accord. Alors, on va essayer de discuter sur le deuxième aspect. C'est justement l'annonce qu'a faite le ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, qui a affirmé que l'élection des gouverneurs issus des nouvelles provinces, notamment de la province de l'Équateur et de la province orientale, interviendra au 31 juillet, alors que l'élection des autres gouverneurs, interviendra à partir de la mi-août. Comment vous analysez cela, Joachim?
Oui, je réponds à cela, mais je pense qu'il faut recentrer certaines choses. Donc, je suis un peu étonné par l'esprit des Congolais. À tout moment, chaque moment n'est jamais opportun. Si on l'avait fait hier, on dirait, mais pourquoi maintenant? On le fait demain, pourquoi aujourd'hui? C'est comme s'il n'y a jamais un moment, pourquoi pas aujourd'hui? Nous aurons les élections dans presque 2 ans. En une année, on ne peut rien faire. Et si on l'avait fait, non, il fallait attendre.
Mais Joachim, on aura 9 élections au 31 juillet, ce qui n'était pas prévu par la CENI.
Ben non, mais il y a l'élection là, c'est une élection provisoire, parce que c'est cette élection là qui se passera seulement avec 3, 4, 5 députés provinciaux tels qu'on va en avoir. Je ne pense pas que c'est une élection qui est prévue dans le calendrier global que la CENI a préparé. Ça, c'est tout simplement.
Et ça nécessite pas des moyens?
Oui, bon, ça nécessite des moyens, mais pas autant de moyens que les autres élections là. Donc c'est pour dire que il est vrai que le découpage va créer un problème. Le seul problème qu'il va créer, c'est le problème d'argent, le problème d'infrastructure. Mais le reste est là. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque Mobutu, je crois en 71 ou 72, dit le chef-lieu de la province de Bandundu quitte pour Bandundu. Les gens ont dit non, mais il n'y a pas d'infrastructure. Il a dit les gens d'à côté, la province part. Et les gens, les fonctionnaires dormaient sous les arbres. Il y en a qui travaillent dans les portes. Mais aujourd'hui,
juste parce qu'ils ont créé des infrastructures.
Mais lorsqu'on a découpé le Kivu, Goma n'était pas ce qu'est Goma aujourd'hui. Donc ça a été. Mais moi je pense aussi qu'il faut parfois y cheminer. Vous voyez les Congolais pour dire nous allons. Vous voyez même, on a dit on va découper dans 6 ans. 6 ans on a fait quoi? Rien du tout. On attendrait 10 ans, il n'y aurait rien.
Donc vous êtes quoi?
N'irait planter même un seul arbre.
Et donc vous êtes d'accord qu'on puisse sauter vers l'inconnu?
Mais oui, tout à fait. Le bas Congo est là. Et Tchela, le jour où on va dire on découpe, et c'est à ce moment qu'on va construire à Tchela. Depuis que le Bas-Congo est province, le Bas-Congo a déjà construit Tchela pour que Tchela laisse un peu dégaler Matadi et dégaler Boma. Non, Ça reste comme ça jusqu'au jour où on dira, ah, on découpe les Bas-Congo, on dira, non, tiens, là, il n'y a pas d'infrastructure. Mais commencez par mettre les infrastructures. Est-ce qu'on a des infrastructures que dans les chefs-lieux des provinces, ou bien n'importe où, même dans les villages, on a besoin d'infrastructures.
D'accord.
Donc, on doit abandonner ces faux problèmes-là.
D'accord. Alors, John, est-ce que c'était au ministre de l'Intérieur, finalement, de faire cette annonce que, l'élection des gouverneurs issus des provinces démembrées interviendra au 31 juillet en lieu et place de la CENI?
Bon, je ne sais pas hein, si quelqu'un d'autre devrait le dire, hein, mais le ministre de l'Intérieur a la charge de piloter ce processus. Bon, sans prendre sa défense, sans être son avocat, je crois que ça peut être considéré à titre indicatif, quitte à voir harmoniser avec la Commission électorale nationale indépendante et les provinces concernées. Et mais comme il faut quand même du délai, ben il a proposé des délais, hein, je crois. Mais après, ça va, on va voir avec la réalité du terrain de chaque province, comment est-ce que cela peut s'organiser dans ce délai-là ou un peu plus tard, mais au moins on a une référence, quoi.
Mais la référence pour vous, donc sauter vers l'inconnu comme je viens de le dire avec Joachim, ça vous paraît plausible?
Bon, je ne dis pas ça, mais j'ai remarqué que pour ces découpages ici, il y a dans la province orientale des gens qui ont fait des marches pour revendiquer les découpages.
Bien sûr.
Donc il faut nuancer les choses. Il n'y a pas seulement ceux qui n'en veulent pas, il y a ceux qui n'attendent. Dans l'Ituri, ils attendaient ça des pieds fermes depuis très très longtemps.
D'ailleurs, les députés de l'Ituri ont demandé à ce que la section, la cellule de la DGRPO, de l'ancienne DGRPO, n'envoie plus les recettes à qui s'en gagne.
Exactement. Et je crois qu'il y a à peu près la même chose aussi à l'Équateur et tout ça. Bon, en fait, on a peut-être une fâcheuse tendance de politiser tout au Congo. La vérité, c'est que nos provinces sont trop grosses, trop grandes, je veux dire. Il faut les rendre dans la proportion où elles peuvent être prises en charge par les populations qui sont dedans. Bon, maintenant, est-ce que il y avait le moyen? Non. Est-ce qu'il y aura le moyen demain? On ne sait pas non plus.
C'est la question.
Voilà, on ne sait pas non plus. Donc bon, parce que il est dit qu'on commence, ben on y va à la bonne franquette. Je crois que il y a un problème de management. Hein. Je crois que il y a un problème de management au niveau des provinces. Chaque responsable d'institution, si seulement il est un peu travailleur, si seulement il aime son pays, il a de quoi redonner un contenu à la plupart de ses provinces. Et déjà, j'allais signaler que chacune de ces provinces a plus ou moins un pool économique d'intérêt, donc autour duquel on peut construire quelque chose avec un peu d'imagination.
D'accord. Alors, Charles, tout en réagissant aux propos de Joachim et de John, vous répondez aussi à cette question. Est-ce que vous pensez que la CENI est capable d'organiser 9 élections d'ici le 31 juillet et même autant d'élections d'ici mi-août pour les provinciales, pour les députés, pour les gouverneurs provinciaux?
Sans entrer dans l'esprit du chef de l'État, mais je pense que c'est l'un des motifs d'organiser même les dialogues. C'est parmi les sujets qui doivent être débattis et dans les dialogues, j'imagine. Alors, c'était anormal de penser à ces grands lots d'élections en un seul instant, pendant que nous avons toujours clamé l'apprentissage de la démocratie. Mais par rapport à une option où le vice-premier ministre de l'Intérieur doit donner l'annonce sur une élection qui est un domaine réservé à la commission électorale nationale indépendante. Je précise, donc ce n'est qu'une usurpation du pouvoir qu'il faut vraiment parfois déplorer. Et aussi, c'est là où j'avais dit qu'il y a une récupération systématique de la situation. C'est-à-dire, tout le monde se positionne. Moi, je serai gouverneur dans telle ou telle autre province parce qu'il y a déjà des figures qui s'annoncent pour être candidat dans telle ou telle autre province. C'est ce qui n'est pas normal. Est-ce qu'on a commencé par consulter ces populations? Quand je dis que beaucoup de choses se font en dehors de la population, les référendums, la constitution qu'on clame aujourd'hui qui a été votée par référendum, est-ce que la population a été véritablement sensibilisée pour cette constitution? Non. Est-ce qu'aujourd'hui la population de toutes les provinces en problème a été sensibilisée pour la cause qui concerne les entités? Je crois non. Et lorsque la population n'est pas impliquée, seulement les hommes politiques qui récupèrent la situation, qui parlent, même quand on a perdu, on, quand on est hors mandat, pour les cas par exemple des députés provinciaux, et qui ont largement dépassé leur mandat, ils doivent continuer à défendre au nom de quelle population en principe, parce qu'il y a des députés qu'on va élire d'ici là, qui vont certainement voter le gouverneur, qui vont occuper les nouvelles provinces. Donc, je crois que dès lors qu'on fait des choses en dehors de ces souverains qu'on dit, qu'on reconnaît par la Constitution, les souverains primaires qui est la population, il faut qu'on arrive à ce genre de situation qui parfois n'enchante pas les uns et les autres.
D'accord, merci. Et tout de suite, nous passons à notre deuxième thème de la soirée qui concerne la suspension des vols internationaux de la compagnie Ethiopian Airlines. Nous vous l'avons dit dans le sommaire, la régie des voies aériennes a suspendu les vols internationaux de la compagnie Ethiopian Airlines à partir de Goma au Nord Kivu au lendemain de son vol inaugural. Et cette suspension des vols internationaux sur et à partir de Goma fait toujours parler d'elle. Des réactions de tout genre fusent de toute la province du Nord Kivu, du simple citoyen aux opérateurs économiques, tous expriment leur tristesse. Et pour la plupart d'entre eux, la venue de cette compagnie aérienne avait déjà ouvert des nouvelles opportunités, surtout commerciales, pour la province. Les détails avec vous, Christian Mapendano.
À l'unanimité, les acteurs de Goma que nous avons contactés demandent à la direction générale de la RVA de revenir sur sa décision. On ne peut pas faire d'une seule mesure deux poids, estime par exemple David Katumbi, opérateur économique de la province.
Je ne crois pas que ça puisse être vrai, puisqu'il y a CA qui atterrit, service air atterrit. Mais aussi, on doit sécuriser seulement Ethiopian Airlines. Donc, je suis sûr que le gouvernement est tellement responsable et ne peut pas commettre une telle erreur.
Tout en excluant pas la possibilité d'une main noire derrière cette décision, d'autres estiment que c'est une perte tant pour la population que pour les trésors publics. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, notable et acteur politique à Goma.
Nous pensons que les raisons sont ailleurs. Nous pensons que c'est une façon tout simplement de calmer la tension. Ça va obliger les voyageurs à payer encore des transports Gisenyi, Kigali, avec tout ce qu'il peut y avoir comme dépenses en cours de route. Ça va freiner l'élan de l'emploi qu'un certain nombre de Congolais allaient avoir au niveau de l'aéroport de Goma. Ça va bloquer même les trésors publics qui allaient bénéficier d'un certain nombre de frais.
Ce lundi, le chef d'escale Ethiopian Airlines à Goma a été reçu par le vice-gouverneur et gouverneur par intérim du Nord Kivu, Negus Meresa, plaide en faveur du développement du business dans la province. Goma, Christian Mapendano, Radio Okapi.
Et pour sa part, le directeur général de la RVA, la Régie des voies aériennes, précise qu'il s'agissait d'un vol d'essai et non inaugural. Bilingi Abdallah rassure que la reprise de ce vol est prévue pour bientôt, le temps de terminer quelques travaux de réglage technique. Alors John Gomboa, quelle analyse faites-vous de la décision de la RVA d'annuler les vols internationaux à partir de Goma au Nord Kivu?
Je la trouve injuste et injustifiée, dans ce sens que moi j'étais particulièrement choqué. Les DG de la RVA considèrent que les vols internationaux ne peuvent pas encore arriver, atterrir ou décoller de l'aéroport de Goma parce que les conditions ne sont pas réunies. Pendant ce temps-là, il y a pourtant des vols domestiques qui atterrissent. L'avion de Ethiopian là, c'était un Fokker, mais il y a des avions plus lourds, l'avion là, des aéronefs de la MONUSCO, les avions des compagnies d'aviation ici
à Omer,
qui atterrissent. Mais donc lui, il sait que il y a insécurité au sol à l'aéroport international de Goma, et il considère que c'est cette sécurité là elle est valable pour les vols internationaux, et donc les Congolais ils peuvent mourir tranquillement sans que cela puisse émouvoir quelqu'un. C'est là que je me suis senti particulièrement choqué par ce propos du DG de la RVA. Donc c'est totalement injustifié. Et
vous pensez qu'il y a des dessous de cartes derrière ça?
Effectivement, je n'en ai pas des preuves, mais je pense quand même que c'est pas loin. Ça paraît quand même un fatras des propos plus ou moins contradictoires qui cachent mal une décision de ne pas permettre à cette compagnie d'aviation d'atterrir à Goma. Bon, moi je n'ai rien à voir avec Ethiopian, mais je pense quand même que c'est utile pour désenclaver ces Congos et éviter aussi des longs trajets à nos compatriotes qui vivent au Nord Kivu, qui soit pour prendre un vol international, ils sont obligés de venir à Kinshasa ou d'aller dans un pays étranger, et ça ne s'explique pas.
Alors, Charles, comment vous analysez cela?
Bon, il y a une mémoire dans cette situation, je ne sais pas, mais c'est qu'un confrère de Goma m'a donné comme information que, à l'annonce de votre émission, je crois que c'était une décision du DG de RVA qui est justifié par le fait que l'aéroport n'est pas encore achevé. Les travaux de l'aéroport donc n'ont pas encore achevé et n'ont pas été achevés. Mais je me pose la question de savoir pourquoi ce malentendu et qui justifie ce malentendu. Parce que une opinion, quand nous avons appris le principe de l'opinion, une opinion se crée lorsqu'il y a une situation. Alors, s'il n'y avait pas de connotations politiques, c'est trop dur, mais s'il n'y avait pas une situation floue dans cette affaire, je crois que cela n'allait pas agiter la population.
Et vous pensez qu'il y a un déficit de communication dans tout ça?
Peut-être c'est ça, oui, mais déficit de communication, c'est encore dur, mais au moins, peut-être il y a quelque chose qu'on cacherait. Et s'il y a une décision à prendre à l'endroit de Airlines, je crois que ce serait important d'annoncer à la population qui est censée être informée. Vous savez, nous, le slogan du journal, on dit que la bonne gouvernance passe par le principe de redevabilité. Et quand on n'est pas redevable de manière permanente, et les silences créent une information. C'est-à-dire, quand la population n'est pas informée par rapport à une réalité, elle-même peut créer l'information et cela peut être mal interprété. Je pense que suspendre le vol pour raison de finir les travaux est normal. Mais suspendre au moment où John vient de le dire qu'il y a d'autres vols plus importants que ça atterrissent et décollent dans cet aéroport, je crois que c'est là où peut-être on peut comprendre qu'il y a un flou qui serait entretenu. Mm-hmm. Mais je crois que arrêter les travaux pour raison de réhabilitation ou de continuité des travaux, de finalisation des travaux demeure salitaire.
D'accord. Alors Joachim, est-ce que la RVN ne pouvait pas communiquer en amont pour éviter ce déficit communicationnel ou encore ses intentions de main noire derrière sa décision?
Oui, mais écoutez, pour interpréter cette décision, il faut d'abord savoir quelle idée vous avez de votre gouvernement. Si vous avez en tête d'un gouvernement qui ne sait rien faire, qui tâtonne, vous vous dites, ah, pourquoi ils ont accepté maintenant. Vous savez que le gouvernement, s'il ne voulait pas d'Ethiopian Airlines à Goma, il n'aurait pas autorisé qu'il fasse même le vol d'essai. Il n'aurait pas autorisé. Et on fait l'essai, c'est peut-être pour voir qu'est-ce qu'il y a comme difficulté. Si on constate après qu'il y a certaines difficultés à remplir, on peut le faire. Un vol international n'est pas un vol domestique.
Donc il y a des différences entre
mais
vol international
et
vol local.
Mais il y a des conditions pour des aéroports d'accueillir un vol domestique, pour accueillir un vol international. Dans le vol international, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui exigent qu'à l'aéroport qu'il y ait telle condition. Et aussi pour la sécurité. Nous sommes à Goma, qui est le ventre mou de la République. Donc, on doit avoir au sol là tous les équipements possibles pour bien contrôler tous ceux qui viennent de l'extérieur. Moi, je pense que si tout cela n'était pas fait avant et qu'on demande d'attendre un peu pour qu'on puisse terminer tout ça, moi, je pense que la sécurité du pays, on n'a pas à faire plaisir à Ethiopian Airlines ou bien à un commerçant quelconque, mais que je pense que lorsque ça pète à Goma, il n'y a aucun commerçant qui travaille là-bas. Il y a lieu que l'on puisse terminer les travaux, que l'on puisse terminer pas seulement les travaux de l'aéroport, mais tout ce qu'il y a comme équipement pour checker tous ceux qui viennent de l'extérieur, tous ces contrôles. Moi, je pense qu'on doit mettre tout cela en garde. Mais si on a créé des aéroports internationaux, mais il faut que les vols internationaux atterrissent, sinon vous allez avoir un aéroport comme celui de Guadeloupe qui ne sert à rien. On y a investi. Mais si on peut autoriser que les vols arrivent là-bas, c'est pour l'avantage du Congo, de comme à Lubumbashi, ainsi de suite. Je ne pense pas que le gouvernement refuserait telle chose.
Mais en même temps, ce sera aussi justement votre conclusion. Qu'est-ce qui devrait être fait pour éviter ce type de malentendu entre l'Ethiopian et la RVA?
Il faut communiquer. Pendant que tous les médias ont parlé du vol inaugural,
ce sera votre conclusion.
Alors que pour la RVA, c'était un vol d'essai. Pourquoi la RVA n'a pas rectifié l'opinion?
C'est justement ça la question.
Justement, quand il parle de vol inaugural, quand on inaugure, c'est qu'on on ouvre la série. On ne peut pas dire que c'était un essai alors que les gens ont parlé d'inaugural et ils n'ont rien fait. Donc c'est ça, nos institutions communiquent très mal.
D'accord. Ok. Alors John, quelle est selon vous la solution pour éviter ce genre de déficit? Il a dit qu'il faut bien communiquer et à votre niveau?
Moi, je crois qu'il ne faut pas faire la différence en termes de sécurité en ce qui concerne les passagers sur les vols internationaux et sur les vols domestiques qui doivent être tous logés à la même enseigne.
Alors, Charles, juste avant qu'on clôture définitivement cette émission.
Et je crois que le gouvernement a la responsabilité de communiquer à chaque instant. C'est la moindre des choses. Mm-hmm. Les canaux sont là qui doivent faciliter à ce dernier de communiquer. Et lorsque la population est communiquée de son sort, je crois qu'elle n'a pas à s'agiter. Dès lors qu'elle n'a pas l'information la concernant, elle a raison de s'agiter.
Mm-hmm. Merci beaucoup. Et c'est la fin de la tribune de la presse de ce soir. Nous prenons rendez-vous avec vous le vendredi prochain à la même heure. Sinon, Dialogue entre Congolais, c'est pour lundi prochain dès 19h15, hors de Kinshasa. Jeudi, merci à Alain Goy et Hippolyte Kapanga qui étaient aux commandes techniques. Une édition coordonnée par Guy Maté, supervisée par Léonard Moulamba. Berry Franklin Louchaka qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi et retrouvez-la sur votre site www.radiocapi.net. Bonne soirée chez vous.